Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va.
C'est une vraie question. Alors déjà, la flamme ne s'éteint pas jamais. Ça, il faut quand même préciser parce que j'ai l'air de jamais m'éteindre, mais évidemment que je m'éteins. Et d'ailleurs, un jour sur quatre, je suis en larmes en me disant j'arriverai jamais, j'en peux plus. Ça, évidemment, je ne le montre pas. Enfin, tu vois, ça ne fait rêver personne et puis c'est, ça ne prêche pas pour ma paroisse, tu vois. Mais évidemment que je suis pétrie de doutes, je doute tous les jours en fait. Mais en effet, j'ai cette gagne, quoi, cette envie. Pour moi, mon moteur, c'est l'envie. Et l'envie de réussir est plus forte que la peur de perdre.
La mythologie lui attribue noblesse des pensées, l'art des très beaux ouvrages et l'astuce sans égale. La Pénélope avec laquelle j'ai eu la chance de m'entretenir pendant cet épisode n'est pas simplement rusée ou intelligente, c'est une super bosseuse. J'ai rarement vu une capacité de travail aussi intense et régulière. Elle s'appelle Pénélope Boeuf. Elle est auteure, comédienne, scénariste, podcasteuse, entrepreneuse et speaker. Et même si ça peut vous sembler beaucoup à la fois, et ben je peux vous garantir qu'elle fait tout ça magistralement. À la tête de son studio de podcast La Toile sur Écoute, elle produit environ une dizaine de podcasts de fiction et accompagne des marques dans la création de podcasts. Elle compte également à son actif 10 ans de métier dans le grand bain du marketing et la création d'une précédente structure dans l'univers des box. Pénélope, elle a un impact positif de dingue parce qu'elle incarne beaucoup de choses. Le travail, la ténacité, la vivacité, la résilience et la bonne humeur. Et je dois même ajouter l'humour parce que même si vous allez voir, elle se trouve pas drôle, moi je la trouve très drôle. Avec elle, on a parlé de la difficulté que nous pouvons avoir à trouver notre place en entreprise lorsque l'on est trentenaire, de la gestion de son studio de podcast quasiment toute seule, des sacrifices qu'implique la création, de la volonté de rester sur sa ligne et de ne pas en bouger malgré les avis contraires, de son aventure entrepreneuriale, des difficultés du management de nos jours, de ses prochains projets, des causes de ce que j'appelle le célibat positif actuel et de son avis bien tranché sur le deuxième confinement. Allez, maintenant, j'arrête de parler et je laisse la parole à la géniale Pénélope Boeuf.
Alors, Pénélope, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast.
Avec plaisir. Je suis
très honorée parce qu'en fait, j'ai beaucoup d'admiration pour ce que tu fais, pour la fougue, l'audace et la rigueur, surtout la rigueur que tu emploies pour la toile sur écoute. Mais franchement, je vais te laisser te présenter. Si ça ne te dérange pas, autant perso que pro, dans la mesure de ce que, bien entendu, tu veux nous raconter.
Évidemment. Voilà. Hein. Ben donc j'ai 36 ans, j'habite à Paris. J'ai monté en novembre 2018 mon studio de narration audio qui s'appelle La Toile sur Écoute. Et avant ça, j'ai travaillé pendant 10 ans en marketing, communication, événementiel. Et j'ai bossé dans 10 boîtes différentes. Je partais tous les ans, tous les années et demie de chacune des boîtes parce qu'il y avait un truc qui me manquait. Et puis, à l'aube de mes 35 ans...
Tu savais ce que c'était, le truc qui te manquait ou pas?
Non, j'étais pas à ma place. Je dérangeais les gens parce que je voulais faire des projets hyper créatifs. On me disait oui, mais non, c'est pas le sujet. Je m'adaptais mal à l'entreprise, quoi. Que ce soit d'ailleurs en start-up, j'ai passé 2 ans, c'était génial, et j'ai quitté pour monter une boîte derrière. Mais il y avait toujours un truc, je sais pas, je me lassais. Je me lassais parce qu'on m'alimentait pas assez avec des nouveaux projets. Et à l'aube de mes 35 ans, je me suis dit, bon, Pénélope, ça suffit là, t'as enchaîné 10 boulots, il serait temps que tu penses à faire quelque chose vraiment qui t'anime. Mais je ne savais toujours pas quoi faire, même si depuis toute petite, j'ai toujours dit que je voulais raconter des histoires et donner des idées. Mais on m'avait dit, c'est pas des métiers ça, donc du coup, j'avais un peu mis ça de côté. Et j'ai un ancien boss avec qui je déjeune, donc là, je suis au chômage après avoir quitté ma dernière boîte, et il me dit, Pénélope, t'as une voix, t'es business, tu sais raconter des histoires, pourquoi est-ce que tu lancerais pas ton studio de podcast parce qu'il y a un engouement des podcasts en ce moment. Donc là, on est en octobre, novembre 2018 et là, je lui réponds, qu'est-ce qu'un podcast? À quoi il me répond, tu sais, c'est les replays des radios, là, écoute, je sais pas, va chercher. Et donc, en fait, je suis allée chercher, mais franchement, pas longtemps, parce que moi, ce que j'aime, c'est les projets, c'est avoir des perspectives. Dès que j'ai rien à faire, je m'ennuie, et donc, je me suis dit, ok, génial, je vais monter un studio de podcast, boum. En 3 jours, j'avais ma SAS qui était créée, j'avais appelé mon avocat, mon comptable, mon machin.
Ah ouais?
Ouais. Et là, je me suis dit, bon, bah, d'accord, donc je vais faire ça et je vais accompagner les marques et leur faire faire leur podcast. Attends, est-ce qu'il y a déjà, en fait, des studios qui font déjà ça? Mmh. Ah, bah oui, merde, il y en a déjà quelques-uns. Et ils ont des équipes et des studios internes et ils existent depuis 2 ans. Mon Dieu, je suis à la ramasse, je suis grave. Donc, mmh. Je me démonte pas parce qu'il y a toujours de la place pour tout le monde. Et je vais taper un peu aux portes de marques parce que comme j'ai bossé quand même beaucoup chez des annonceurs, j'avais un petit réseau. Et en fait, les marques me disent oui, c'est intéressant, mais bon, non, c'est pas trop notre truc. Ou alors, si, pourquoi pas faire des interviews de nos collaborateurs qui, en fait, moi, ce que je voulais, c'était plutôt raconter des histoires, faire du vrai storytelling, de la narration. Et en soi, faire des interviews, moi, j'avais aucune valeur ajoutée à faire ça. Mmh. Donc, ça n'a pas marché. Donc, mmh. Les premières semaines, je me suis dit, bon, ça va pas du tout. Et je redéjeune avec mon pote, là, qui m'avait conseillé. Il me dit, bon, ça va pas, ça marche pas, les marques, elles veulent pas. Elle m'a dit, mais Pénélope, lance d'abord ton podcast. Fais ton podcast. Mais je raconte quoi? On s'en fout, t'as toujours des milliards de trucs à raconter, raconte ta life. Je dis, mais ça va intéresser qui? On s'en fout, ça va intéresser, fais. Et tu verras, et en fonction, tu adapteras, tu ajusteras. Mais il faut que tu fasses des choses pour pouvoir avancer. Et ça, c'est vrai que c'est toujours un peu ce que j'ai fait. C'est-à-dire que j'allais dans des boulots, j'avais un CV qui fait 2 pages, ridicule, ça n'a ni queue ni tête. Mais au moins, tac, 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 tac. Et en fait, finalement, ça reboucle. Et c'est parce que j'ai enchaîné tout ça qu'au final, j'ai réussi à trouver un peu ce que je voulais faire. Mmh. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai lancé l'arnaque.
Ouais.
Ce sont des chroniques de 5 minutes sur la vie d'une jeune trentenaire parisienne. Enfin, c'est ma vie, quoi. C'est mes histoires de vie que je raconte à la première personne. Je m'en cache pas, c'est de l'autofiction. Mmh. Et au début, personne n'écoute, hein. Enfin, mes potes, les potes de mes potes, mes friends Facebook que je connais pas trop, mais quand même, la famille. Et puis, bon, je rame un peu. Enfin, j'ai 100 écoutes, 150 écoutes par jour. C'est pas non plus la panacée. Et puis, parce que je sais, de par mon expérience un peu business, qu'il faut avoir un réseau, je contacte les plateformes, Apple, Deezer, est-ce que vous voulez bien me mettre en avant? Personne ne me répond, je sais pas quel est le contact, je cherche sur LinkedIn, enfin voilà, il y a tout un boulot de recherche et je m'active énormément pour que ce podcast soit connu, même si j'ai quand même énormément de retours, notamment de mes potes et aussi des gens un peu du milieu, parce que j'avais déjà fait 1 an de radio il y a 10 ans, que j'avais contacté pour dire qu'est-ce que tu penses de mes épisodes. Et on m'avait dit, en fait, c'est des épisodes courts. Ça n'existe pas dans le podcast, c'est que des épisodes longs, des interviews. Donc là, tu vas un peu dans le mur et puis tu n'es pas engagée, t'es pas militante, tu défends aucune cause. Donc tu vas dans le mur. Ces épisodes, je pense que en plus ils sont pas très intéressants. Tu racontes rien d'extraordinaire dans tes épisodes. Je dis non, mais c'est la façon de les raconter. Oui, d'accord, bon. Et du coup, j'étais un peu déprimée, mais je me suis dit non. Et moi, en fait, j'avais pas d'autre truc. Pour moi, c'était évident qu'il fallait faire ça. Mmh. J'ai contacté tout Paris, quoi. Enfin, j'ai essayé d'envoyer des mails un peu à droite à gauche à des personnes que je connaissais pas. Et puis un jour, je me lève le matin, et là, je vois que j'ai donc à 6h du mat, je me lève, et là, je vois 1500 écoutes déjà sur mon podcast. Non, mais là, je me dis qu'il y a un bug de Pipa. À l'époque, j'étais sur Pipa. Maintenant, c'est passé sur Acast. Mais là, je dis un bug, c'est pas possible et tout. Et là, je regarde, je tape Pénélope Boeuf dans Google pour voir s'il n'y a pas un article de ma boule. Pas du tout. Enfin, là, on est 3 mois après avoir commencé. L'avantage, c'est que comme j'en faisais 2 par semaine, donc ça faisait déjà, j'en avais eu beaucoup, quoi. J'en avais une trentaine déjà qui étaient en ligne. Et je vais sur Apple Podcast et je vois que j'ai ma bannière recommandée par Apple Podcast, l'arnaque.
Wow.
Et là, ouais. Et ça clique, ça clique, ça clique. Et ça clique aussi parce que j'ai 30 épisodes qui sont courts. Donc, en fait, les gens les binge. Donc, ça me fait 30 écoutes directes, quoi.
Bien sûr.
Donc, ça va beaucoup plus vite de faire des épisodes courts que des épisodes, des interviews d'1 heure. Forcément, les gens binge beaucoup plus facilement. Je monte plus rapidement dans les charts. Et du coup, je monte dans les charts. Et donc, je deviens première dans les charts iTunes. Et en fait, c'est boule de neige. Du coup, on dit, mais c'est quoi ce truc? Hop, tac, tac, tac. Et je finis à 8000 écoutes par jour. J'ai fait ça pendant quelques mois, quoi. C'est que ça tenait sa ligne de 8000, c'était énorme. Et là, je recevais surtout, en fait, j'ai reçu énormément de messages de gens sur Instagram notamment, mais aussi un peu des emails et puis du LinkedIn, de gens qui disaient « Mon Dieu, mais je viens de découvrir tes trucs, mais c'est hyper frais, c'est léger, c'est décalé, c'est du jamais vu, c'est un peu ovni, mais on adore, je me réveille le matin avec, etc. » Et je me suis dit, en fait, je suis fière de moi parce que je me suis écoutée et j'ai pas écouté les autres. Et c'est un peu là le truc à retenir. Ouais, c'est qu'en fait, si tu crois vraiment en ton truc, il faut pas se laisser distraire parce que les gens ils savent mais ils savent pas et puis c'est biaisé parce qu'ils te connaissent. Enfin voilà, il faut stick to who you are.
Juste une petite chose, t'as monté une boîte quand même auparavant.
Ouais. Ah oui.
T'es entrepreneuse à la base.
Alors.
Enfin, à la base non, t'es plein de choses, mais t'as quand même monté une entreprise.
Ouais.
C'était une box de mémoire.
Tout à fait.
Avec des mets, enfin avec enfin c'était dans de l'alimentaire, donc tu peux nous en dire quelques mots ou tu veux plus en parler?
Si, bien sûr. En fait, j'ai bossé dans salarié, et puis ouais. J'ai bossé donc chez Groupon pendant 2 ans, et là chez Groupon, on bossait comme des malades mentaux. Mes meilleurs potes aujourd'hui, c'est encore ceux de chez Groupon parce qu'on faisait que ça matin, midi, soir.
C'est même parce que c'est devenu Groupon là aujourd'hui.
Ouais, ça continue.
Ok. Donc, d'accord.
Un homme de chemin. Mais c'est moins la bouffe que c'était il y a 5 ans. Et en fait, on bossait tellement et puis on te faisait grimper très rapidement. T'étais très très bien payé. J'ai fait 3 boulots différents et le troisième, je suis finie directrice commerciale sur 3 villes où je pilotais 15 commerciaux dans 3 villes. Alors, j'avais jamais fait de commercial, mais comme je connaissais bien le back office et tout, bon bref, je me suis ramassée, mais genre lamentablement. Du coup, j'ai pété un plomb. J'ai dit mon Dieu, et puis personne me backupait derrière. Enfin, c'était horrible. Et donc, j'ai pété un plomb. J'ai fait un arrêt maladie d'un mois et demi. Et là, je me suis dit, je ne suis plus capable de revenir dans cette boîte. Mais en fait, c'est pas ça. C'est que je ne suis plus capable de revenir en entreprise tout court.
Ouais, je comprends.
Donc, qu'est-ce qui se passe quand déjà, c'est un peu la dépression, hein. Mais qu'est-ce que tu fais? Et je ne savais pas. Et moi, je suis pas. Alors, je suis une entrepreneuse dans le sens où je suis tout le temps dans l'action. Et d'ailleurs, quand je le suis pas, je déprime. En revanche, j'ai besoin d'être accompagnée quand même à un moment pour déclencher un truc. Et là, monter une boîte, pour moi, ça me paraissait vraiment trop énorme. Et surtout, je savais pas du tout quoi. Et c'était pas du tout. C'est pas. Mes parents sont pas du tout entrepreneurs. Enfin voilà, c'est pas dans ma culture. Mmh. J'ai une copine de chez Groupon avec qui je m'entendais bien, avec qui je travaillais, qui elle m'a dit bon, écoute, en fait, ta seule solution, c'est de monter une boîte. Eh ben, montons-la ensemble. Et donc, en 3 jours, on a pondu cette idée de monter. On a copié tout simplement la box cosmétique. Nous, on a fait la box food. Ouais. Tu recevais tous les mois des produits culinaires avec des recettes. On a fait un partenariat avec l'Atelier des Chefs. Donc, tu recevais tes 8 produits, des recettes une fois par mois. Et voilà.
C'était une bonne idée.
Et ouais, c'était une bonne idée. En plus, c'était au moment où les box commençaient à pulluler. Donc, on a eu énormément de presse au début. Ça a cartonné. On a vendu 400 box le premier mois, 1000 le deuxième, 3000 le troisième. Et puis, voilà, c'était exponentiel. Donc, gros carton. Et puis, au bout d'un an et demi, bah, elle comme moi, d'ailleurs, mon associé comme moi, on s'est lassé. On s'ennuyait. Et puis, ça marchait tellement bien qu'on aurait mis 2 personnes à notre place. Ça roulait. On avait déjà beaucoup développé, beaucoup diversifié. Donc, c'était plus challenging. Et moi, j'aime bien quand ça change un peu tout le temps. Mm-hmm. Donc, on s'est dit, bah, tiens, si on vendait. Puis, à ce moment-là, concours de circonstances ou synchronicité, je sais pas comment on dit ça, mais il y a Reworld Media, le groupe média qui nous a approchés pour nous racheter. Voilà, pour accompagner, tu sais, Marie-France, ils avaient déjà leur box Marie-France, ils avaient leur box gourmand du magazine. Enfin, donc du coup, ils nous ont acheté et puis voilà, en 3 mois de négo, bim, c'était vendu. Donc génial. Et puis il y avait 3 mois de passation dans la vente, dans le contrat de vente. Ils n'avaient pas besoin de nous deux parce qu'en fait, c'était pas si compliqué, il y a pas tant de travail à faire que ça. Donc mon associé s'est proposé et moi, ils m'ont dit, bah écoute, on vient d'acheter une maison de 150 mètres carrés à Saint-Tropez. On aimerait en faire le pop-up store du magazine Marie-France. Mmh. Est-ce que tu veux aller passer 8 mois pour la saison à Saint-Tropez, monter cette boutique? Pour l'instant, il n'y a rien, il n'y a que des travaux. Il faut que tu trouves des choses à vendre, la force de vente, la caisse, le merch, machin, tatata, avec un budget de zéro. Enfin, c'est comme si je remontais une boîte où j'étais à Saint-Tropez, je vivais dans la maison au-dessus avec une terrasse. Enfin, c'était extraordinaire. Je refais un projet entrepreneurial, mais pour le coup, il était interprenarial parce qu'il était au sein de Reworld. Donc, j'avais un salaire pendant 6 mois et c'était génial.
D'accord.
J'ai fait ça, c'était génial. Et puis après, ça s'est terminé. Et puis, donc, j'avais un gros chèque de vente, de ma vente sur mon compte. J'avais quelque part un petit succès, tu vois. C'était cool d'avoir monté une boîte, de l'avoir vendue correctement, d'avoir refait derrière cette boîte à Saint-Tropez. Et là, et maintenant, très compliqué. Donc, l'entreprise, bah, j'en voulais toujours pas. Mon associé est parti vivre à l'étranger. J'avais plus d'associé. Et puis même remonter une boîte, on avait beaucoup trop travaillé. J'étais trop fatiguée. J'avais pas la force. Donc, j'ai fait 8 mois de down, 8 mois de sur mon canap. Et puis j'envoyais, en fait, j'avais aussi la prétention de penser que en ayant vendu cette boîte qui était quand même, c'est niche, hein, une box food, donc c'est pas Google, quoi, hein. Donc du coup je pensais que Google, Blablacar, Airbnb allaient m'appeler pour me dire, oh, là, vous avez vendu votre box, c'est génial, venez chez nous. Et en fait, bah pas du tout, personne ne m'a appelé, ne nous a appelé. Et donc là, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai que on est nobody, on a fait un truc inconnu au bataillon. Donc il faut y aller quoi, il faut aller chercher. Donc j'ai envoyé des CV à tout va et puis je suis tombée sur un type entrepreneur qui bossait pour le Crystal Festival. Donc c'est ceux qui récompensent les meilleures publicités de l'année, un peu le concurrent de Cannes Lions.
Ok.
Il m'a dit en un entretien, il m'a dit bon ok, t'es un peu entrepreneur, c'est super, tu vas aller voyager en Inde, en Chine, etc. Tu vas aller faire un peu de veille. Donc j'ai voyagé un peu et puis après il m'a dit bon tiens, tu vas en Chine, t'as un mois pour monter une conférence autour du digital. Tiens, tu vas à Dubaï, pareil. Tu vas à l'île Maurice, pareil. Enfin voilà, donc j'ai fait ça dans quelques pays et puis au bout d'un an et demi, la boîte allait plus bien, donc je suis partie. Et ensuite, pareil, mon Dieu, qu'est-ce que je vais devenir? Et puis là, j'avais un peu anticipé, je sentais que ça se cassait un peu la gueule de la boîte, donc j'avais anticipé. Et j'ai trouvé un taf chez Énergie, où j'étais directrice événementielle chez Énergie, donc je pilotais 5 personnes.
Ok.
Ça a été un enfer, parce que en fait, manager, c'était pas du tout mon truc. D'ailleurs, c'était un peu pour ça que je m'étais ramassée chez Groupon, c'était pour le management. J'ai beaucoup de mal, alors que j'adore ça. En plus, j'ai un côté un peu... suivez-moi, j'ai des projets, allons-y tous ensemble. Mais en fait, là, c'était des millennials en l'occurrence qui avaient plus ou moins mon âge et qui voulaient mon poste. Et j'ai pas su gérer, c'était l'enfer. Mais donc, j'y suis quand même, j'ai tenu un an et demi. Et
à ce moment-là, très honnête de le reconnaître, parce que c'est pas évident.
Ouais.
De dire que c'est un truc compliqué à faire aujourd'hui, alors que tout le monde le veut le faire, c'est bien de le reconnaître.
Ouais, franchement, moi, je suis pas du tout apte à ça, quoi. Je suis pas assez patiente, je pense. Je préfère le projet à l'équipe, entre guillemets. Enfin, non, parce que...
Je pense que tu veux dire.
Je préfère une équipe à l'horizontale qu'à la verticale.
Ouais, je vois très bien.
Voilà. Et puis, j'ai l'ancien directeur commercial de chez Groupon m'appelle en me disant, Pénélope, comment ça va chez Énergie? Je dis, bah, pas terrible. Super. Est-ce que tu veux venir monter le département événementiel du Guide Michelin? Parce qu'il était CEO du Guide Michelin. En fait, j'ai même pas demandé ce que c'était. Je pouvais me barrer de cette boîte. Et donc, j'ai dit, vas-y, banco, génial. En l'occurrence, il s'est avéré que c'était un poste extraordinaire avec des conditions extraordinaires, comité de direction, gros salaire, voyage dans tous les sens, etc. Je prends une strate de maboule pendant 7 mois et demi, global et tout. Et puis, au bout de 7 mois et demi, le mec en question qui m'a recruté s'en va.
Ah.
Et donc, ils mettent quelqu'un d'autre à sa place qui, là, me dit, qu'est-ce que t'as fait depuis 7 mois et demi? Et ma période d'essai, c'est terminé au bout de 8 mois. C'était 8 mois d'essai. Et je dis, j'ai fait ça.
8 mois d'essai?
Ouais, parce que comité de direction, donc, ouais.
Ah oui.
Et puis, je pense qu'ils me testaient un peu, bon. Hein. Mmh. Parce que Guide Michelin, ça appartient à Michelin Pneu, quand même, il faut le savoir.
Ouais, je sais, c'est incroyable.
Du coup, ouais,
les gens le savent pas.
Ouais, les gens le savent pas. Et puis surtout, c'est familial, c'est les pneus, c'est quand même une industrie dans le fond, donc c'est pas funky town. Et puis là, on m'a dit, non, mais en fait, on va reprendre la base, quoi. Et là, j'ai dit, bon, ok, en fait, ces grosses boîtes ne me vont définitivement pas. Mettez fin à ma période d'essai, je m'en vais. Et je suis partie. Et c'est à ce moment-là que j'avais presque 35 ans et que du coup, j'ai monté la toile sur écoute.
Eh ben, dis donc, ouais. Quelle aventure. Moi, je t'ai découvert, Pénélope, par pique-parole. Ouais, parce qu'en fait, tu as plusieurs podcasts. On peut peut-être essayer de décrire un peu, pas un peu, mais de décrire concrètement la toile sur écoute avec tous les podcasts que tu as, parce que tu en as beaucoup.
Ouais, j'en ai 9.
Hyper productive.
Ouais. En fait, l'arnaque, donc c'est le best-seller un peu, hein, c'est des chroniques courtes sur la vie d'une jeune trentenaire parisienne, ça dure 5 minutes. Ensuite, j'ai lancé Pique Parole, qui est en fait un peu mon préféré, mais c'est celui qui marche le moins, même si quand même les gens qui aiment, ils aiment. Donc c'est.
Moi, je te l'avoue, c'est mon préféré.
Bah ouais, moi aussi, c'est mon préféré, mais c'est beaucoup de travail pour peu de renta, quoi.
Ouais, je sais. C'est enfin, je m'en doute. Tu vois la production, parce que il y a du son, il y a du montage, enfin c'est très évolué.
Ouais, en gros, ça, c'est des portraits de personnalités que j'ai au téléphone pendant 1 heure en off. Ils me racontent leur histoire. Je réécris toute l'histoire un peu à ma sauce.
C'est ça. À la première personne. Et tu la lis à la première personne.
Exactement. Et je le dis à la première personne. Et après, il y a toute une histoire de sound design en fond. Et je mets 20 heures pour faire un épisode de 12 minutes, quoi.
C'est ça.
C'est beaucoup. Donc, voilà. Ensuite, je me suis dit, je vais m'essayer à autre chose. Et donc, j'ai lancé un format fiction avec Kupla, K-U-P-L-A, et Rap'n'Roll. Donc là, c'est des fictions audio-comédies. Hein. Donc, c'est 8 épisodes de 15 minutes avec des comédiens, scénarios, du sound design, enfin, comme un film, mais sans images. Donc ça, j'en ai fait 2. Après, j'ai lancé des petits trucs, genre La Parisienne. C'est une Parisienne qui apprend à un robot comment parler à une Parisienne. Après, j'ai lancé une petite fiction, pareil, avec Siri.
Ouais.
Qui parle à Siri.
Une histoire vocale,
ouais. Ouais, il est rigolo, c'est bien. Et après, le truc un peu plus récent, c'est à l'occasion du confinement, j'ai lancé Journal d'une confinée.
Qui a cartonné,
qui faisait 7000 auditeurs par jour.
Incroyable.
C'est 5 minutes et je raconte ce qui me passe un peu par la tête. Ouais. Et ça, ça a très bien marché. Donc après, il y a eu le déconfinement. Donc j'ai fait journal d'une déconfinée sur le même fil. Après, il y a eu le couvre-feu. Je fais couvre-feu. Et là, je fais journal d'une reconfinée. Et là, ça y est, bah là, j'ai ma bannière en recommandée sur Apple Podcast depuis lundi.
J'ai vu ça. Hein.
Ouf. Bah là, je suis à 7.
Super bien placé.
Ouais, c'est génial.
Comment tu fais tout ça concrètement? Parce que moi, c'est ça ma question. T'as une équipe avec toi maintenant? T'as des gens qui bossent avec toi?
Non. Alors, j'ai eu une chef de projet qui m'a aidé à faire le site internet.
Attends, excuse-moi, je te coupe deux secondes. Parce que tu fais pas que des podcasts de fiction. Donc, tout ce que tu viens de nous dire, c'est ta production, ta réalisation, etc. et ta créativité.
Ouais.
Mais en parallèle, tu sous-traites quand même tes services et tu fais de la formation, tu fais des podcasts de marque. Ton studio a vocation aussi à...
Oui, parce que c'est pas avec ces podcasts que je gagne de l'argent.
Oui, voilà.
Alors, j'ai
on peut quand même le préciser.
Faut le préciser. J'ai un peu de pub en pré-roll, post-roll. Enfin, ça me rapporte des centaines d'euros par mois, mais c'est pas avec ça que je vis.
Ouais.
Non, je fais des podcasts de marque. Donc, notamment, j'ai signé Mythique. J'ai fait leur podcast pendant le confinement. Là, d'ailleurs, il y en a un autre qui sort le 23 novembre. Mmh. Ensuite, je fais aussi des podcasts pour l'Association française des urologues.
J'ai vu, ouais.
Amderby, Volcanic. Enfin, des petites boîtes moins connues et plus institutionnelles. Je fais aussi des formations à des agences qui veulent, elles, vendre des podcasts à des marques. Donc, je leur apprends, en gros, comment vendre un podcast et comment faire un podcast. Mmh. Et je fais aussi, et ça, c'est un peu le truc de dire qu'en fait, un podcasteur n'est pas qu'un podcasteur. Mais pour moi, un podcasteur, par définition, est un artiste parce qu'il écrit, il fait un peu du journalisme quand il fait des interviews, il déniche, il fouine, enfin, voilà, il raconte. Et en l'occurrence, moi, je sors un livre en 2021.
Alors attends, oui, parce que j'ai cru que tu l'avais déjà sorti ce livre.
Ah bah oui.
Je cherchais, je ne l'ai pas trouvé.
Non, en fait, il est sorti en mai 2020.
C'est ça.
Il y a eu le confinement en mars. Mon livre n'est pas imprimé, donc on m'a dit, bon, il n'est pas imprimé, donc on fait passer tous ceux qui sont imprimés d'abord. Et toi, tu vas être publié en mars.
Ok.
En mars 2021. Entre-temps, j'ai dit, ok, j'ai relu mon livre, j'ai dit, ça ne va pas. Mm-hmm. Donc j'ai réécrit mon livre et en fait, je sors une collection en 4 tomes.
Waouh.
Je peux pas trop en dire plus, mais en gros c'est ça, et ça sera la cible, c'est plutôt young adult, tu vois. Mm-hmm. Et les 2 premiers tomes sortent en mars, et les 2 d'après sortent en novembre 2021.
Mon Dieu, mais tout ce que tu fais, c'est impressionnant. Comment donc? Attends, excuse-moi, je reviens quand même sur ce que tu déploies comme force. À part, tu disais quelqu'un qui t'aide pour ton site internet, c'est ça?
Donc quelqu'un qui m'a aidé pour mon site internet, elle est partie. Elle a 2 mois, elle m'a fait mon site, ok, très bien. Maintenant, je peux le faire, un WordPress facile. J'ai eu 2 stagiaires pendant 2 mois. Et puis après, je fais toute seule.
C'est une gymnastique incroyable, en fait. Moi, tu me fais penser à une sportive de haut niveau. Je t'assure, hein.
Ouais.
Je trouve que t'as la discipline d'une sportive de haut niveau.
C'est marrant que tu dis ça parce que si j'avais dû refaire ma vie, j'aurais voulu être sportive de haut niveau. D'ailleurs, j'ai fait 10 ans de volley, j'ai raté à rentrer dans l'équipe de France. Enfin. Donc, et en fait, c'est ça, c'est que je suis, en fait, sportive de néo dans le sens où je lâche pas et que j'en veux encore plus tout le temps et je veux gagner, mais gagner dans le sens, gagner mes projets, quoi. Les projets que je me suis fixés.
Ouais, mais ce qui m'étonne, c'est que, t'arrives à t'auto-motiver parce que le sportif de haut niveau, alors, sauf si c'est de la natation, du full contact ou du MMA, mais, enfin, encore. Mais, ce que je veux dire, c'est que t'as pas, enfin, il faut la trouver, la motive, tu vois. Donc, moi, ce que je trouve admirable chez toi, c'est cette flamme qui s'éteint jamais. Et si tu peux transmettre, tu vois, d'où ça te vient, comment ça te vient, qu'est-ce qui t'inspire, moi, c'est ça qui m'intéresse de savoir. Parce qu'en fait, t'es quand même ténace, tu tiens la route et tu augmentes tes audiences, tu augmentes tes productions, tu augmentes, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu nous dises comment. Tu vois, alors, comment et pourquoi? Enfin, pourquoi et comment, surtout?
C'est une vraie question. Alors, déjà, la flamme ne s'éteint pas jamais. Et ça, il faut quand même préciser, parce que j'ai l'air de jamais m'éteindre, mais évidemment que je m'éteins. Et d'ailleurs, 1 jour sur 4, je suis en larmes en me disant, j'arriverai jamais, j'en peux plus. Ah, évidemment, je ne le montre pas. Enfin, tu vois, ça fait rêver personne. Et puis ça ne prêche pas pour ma paroisse, tu vois, mais... évidemment que je suis pétrie de doutes, je doute tous les jours en fait. Mais en effet, j'ai cette gagne, quoi, cette envie. Pour moi, mon moteur, c'est l'envie. L'envie de réussir est plus forte que la peur de perdre.
Magnifique. J'adore cette phrase.
Et j'ai dû la reprendre de quelque part.
Hein. On s'en fout. c'est le contexte.
et comme dirait Booba.
Ouais.
Plus le combat est dur, plus la victoire est belle. J'ai appris ça il y a pas longtemps. Et c'est vrai que plus t'en, alors pardon l'expression, mais plus t'en chies, plus tu jouis. Ça c'est moi.
Ouais.
Mais et en fait, d'où je l'ai cette flamme, je crois que cette flamme, parce que évidemment, c'est une question qui revient souvent et à laquelle j'ai pas vraiment de réponse parce que c'est en moi et donc je sais pas comment l'expliquer. En revanche, si vraiment je vais deep down, je crois que c'est une vraiment, je réfléchis un peu en parlant, hein, parce que bon, c'est sans doute une peur de la mort qui fait que je me dis non mais attends, je n'aurai jamais le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire, de rencontrer toutes les personnes que j'ai envie de rencontrer et d'apprendre tout ce qu'il y a à apprendre. Enfin, on apprend. En plus, moi, je suis particulièrement pas cultivée, quoi.
Tu trouves que t'es pas cultivée?
Oh, ouais, je suis pas cultivée. Alors, j'ai ma culture à moi, hein, ma culture, tu vois, lifestyle, mais je suis pas cultivée. Franchement, c'est parce que il y a une sorte de, alors, enfin, contemplation dans la lecture, dans l'apprentissage, tu vois, avec moi, j'ai besoin d'être dans l'action. Et donc, en fait, ma culture à moi, c'est de faire pour me ramasser. C'est comme ça que j'apprends. Ouais. Et c'est de parler à des gens, de rencontrer des gens. J'apprends énormément des gens. Je me nourris en fait que des gens et des histoires des gens et des miennes. Mmh. Mais c'est vraiment les gens qui me nourrissent. Mmh. Par exemple, quand je voyage, ça me saoule d'aller dans les musées. En revanche, j'aime bien y vivre comme si j'y vivais. Enfin, y visiter comme si j'y vivais. Donc, je suis en tatane et je m'assois sur un petit tabouret rouge au Vietnam et je bois mon thé et je parle avec la nana pendant des heures et je trouve ça plus riche que d'aller au musée, même si, en fait, c'est important d'avoir la guerre du Vietnam, du machin. Mais bon, voilà. Donc, cette flamme, je crois qu'elle vient de là et surtout, je me dis, c'est tellement dommage, c'est qu'on a été projeté, propulsé ici, sur cette terre, sans rien demander à personne. On va partir sans rien demander à personne. Enfin, c'est pas nous qui l'avons voulu. Je me dis, mais autant profiter d'être là pour faire quelque chose plutôt que de le subir. C'est quand même trop con de se dire, bon, bah, en faisant rien, on attend quoi? On attend que ça se passe. Mon Dieu, mais quelle tristesse. Et moi, je ne crois pas à une vie après la mort. Donc, je me dis pas que je vais être réincarné en chien et avoir une vie extraordinaire de chien derrière, tu vois.
Non, mais je comprends. Juste une chose sur... t'as envie de faire du stand-up quand même, non? T'as envie de faire un spectacle?
J'avais envie, et puis je me suis rendu compte que je me trouve pas drôle.
Oh.
Parce qu'un stand-up, c'est vraiment être humoriste. Et moi, je suis pas humoriste. Je raconte des histoires à ma façon, mais je ne suis pas une vanneuse. Tu vois, je cherche pas la bonne phrase, blam, blam. Et pour moi,
c'est peut-être pas une forme de. Alors, c'est peut-être pas le stand-up comme on l'entend avec des humoristes, mais tu peux faire un stand-up sans forcément être.
Oui, genre seul en scène. Enfin,
oui.
Tout à fait. Mais je crois que je suis pas encore assez à l'aise. Et puis, je connais tellement personne dans ce milieu-là que moi, j'aime bien aussi saisir les opportunités et les créer quand il y a déjà une ou deux personnes qui m'ont parlé de ça, qui peuvent un peu m'orienter, machin, là. C'est un peu loin, mais je dis pas non, quoi. Je dis pas non.
Je comprends. Je comprends. Excuse-moi, je fais un petit retour en arrière sur ton opinion sur le podcast de Marc. Moi, ça m'intéresse puisque j'ai un podcast, mais ça m'intéresse aussi de savoir ce que tu en penses vraiment, ton point de vue sur le sujet, parce que c'est assez clivant comme sujet. Il y a plein de gens qui te disent il y a trop de podcasts, il y a d'autres gens qui te disent c'est indispensable. Toi, c'est quoi ton opinion sur le truc, même si je t'oblige bien entendu pas à déjuger ce que tu as fait pour
les marques. Mais je suis très honnête de toute façon avec toutes les marques avec lesquelles je travaille. Je pense que ça ne sert à rien de faire un podcast de marque pour faire un podcast de marque. Quand t'es une marque, il faut que t'aies quelque chose à raconter. Et il y a des marques qui viennent me voir en disant voilà, on aimerait faire un podcast. Oui, pourquoi? Oh bah parce que tout le monde en fait un. Je dis, non, mais en fait, vous n'y êtes pas. Et si vous pensez comme ça, vous n'avez donc pas d'objectif et ça ne marchera pas. Donc, revenez, réfléchissez à pourquoi vraiment, qu'est-ce que vous voulez raconter. Donc, je réfléchis avec eux, mais en fait, au final, ils ne savent pas vraiment. Et même quand je les oriente sur des trucs un peu créatifs, ça ne leur plaît pas parce qu'ils veulent faire quelque chose de plus ordinaire. Et en fait, c'est surtout pas en faisant quelque chose de classique. Moi, je ne suis pas pour le podcast de Marc Interview, par exemple. Déjà, parce que l'interview, alors certes, c'est le format le plus écouté, mais c'est surtout le format le plus créé. Et donc, pour émerger quand t'es une interview, déjà, c'est compliqué. Donc, en plus, quand t'es un podcast de Marc Interview, c'est encore plus compliqué parce que par définition, quand un podcast de Marc sort, on se dit, c'est de la pub, je l'écoute pas.
D'accord.
Et c'est pour ça que moi, vraiment, j'insiste auprès des marques pour leur dire, il faut le moins possible parler de votre marque. Il faut raconter une histoire, raconter un univers. Et en l'occurrence, moi je dis aussi que si vous faites un podcast de marque, ne vous attendez pas à forcément recruter des milliers d'utilisateurs sur votre site. C'est pas le but, c'est du branding. Donc oui, vous allez recruter à force, a posteriori, Mais c'est pas du tout immédiat, c'est un truc sur le long terme. Typiquement, la Mythique, on a fait un podcast donc sur le confinement, c'était 15 épisodes de petites fictions rigolotes de 2 minutes pour accompagner les célibataires pendant leur confinement. On a fait 180 000 écoutes, ce qui est, selon Acast, enfin selon les chiffres, hein, le plus gros podcast de marque, le plus gros succès en podcast de marque. Mmh. La VP de Mythique était venue au Paris Podcast Festival justement pour, on a parlé de ce podcast-là, et elle a dit, on l'a fait pour le branding. On l'a pas fait pour autre chose. On voulait faire un podcast parce qu'on avait besoin de s'exprimer, on avait besoin de prendre la parole, et on avait besoin surtout d'accompagner les célibataires. Mmh. Et là, c'est un peu pareil pour le reconfinement. Pareil, on accompagne les célibataires pendant ce reconfinement-là. Donc, il y a toujours un need, quoi, tu vois, il y a un besoin de la part de la marque. Et elle le dit, c'est du pur branding. N'attendez pas, c'est pas héroïste. C'est pas héroïste à court terme. À long terme, évidemment, mais à court terme, non. Et alors, pareil, moi, ce que je dis aux marques, ça sert à rien de faire un podcast de 5 épisodes. Ouais. Parce que votre podcast, du coup, il est pas en fil rouge. On sent que c'est une opération coup de poing pour dire j'ai fait un podcast et avoir 3 articles dans les magazines. Non, il faut raconter une histoire qui se tienne le plus longtemps possible. Voilà, comme un podcasteur, en fait, si on fait un podcast de 4 épisodes, bah, il va mourir vite, il va y avoir quelques auditeurs et après, il va pas s'alimenter. Donc, on s'attache pas, en fait, à 4 épisodes.
Non, c'est évident. Et justement, je voulais t'en parler un peu, le marché du célibat.
Oui.
C'est bien. Non, mais si tu veux, moi, je suis toujours interloquée parce que je vois, si tu veux, le succès de Mythique, là, dont tu viens de parler, justement, montre à quel point c'est un sujet de société. Oui. Alors, je sais pas si t'es célibataire ou si t'as envie d'en parler, peu importe, mais en tout cas, quel regard tu portes aujourd'hui sur le célibat, entre guillemets ?
Alors, moi, je suis célibataire.
Oui, tu le revendiques, je sais que tu le revendiques, mais après, bon, c'est pas...
Je le revendique, non, je le dis, quoi.
Ouais.
Je lève pas le poing en disant « je suis célibataire », tu vois ?
Ouais, c'est-à-dire que tu le revendiques au sens où tu ne le caches pas, quoi.
Voilà, je ne le cache pas, pas du tout. Bah non, parce qu'en fait, voilà, c'est ça. C'est que, alors, c'est intéressant parce que justement, Mythique a fait beaucoup d'études là-dessus, et il s'avère que, alors bon, c'est con, j'ai plus les pourcentages en tête, mais je crois que c'est aujourd'hui 35% des célibataires ne ressentent pas de pression de leurs proches face à leur statut de célibataire, alors qu'avant c'était beaucoup plus.
D'accord.
Beaucoup moins. Il y avait beaucoup plus de personnes qui ressentaient de la pression.
D'accord.
Et en fait, c'est horrible parce qu'en effet, enfin moi, la première question quand je dis oui, je suis célibataire, la première question c'est et ça va, t'as le moral, tu cherches quelqu'un, tu veux quelqu'un, mon Dieu, mais comment tu vas faire, et t'as 36 ans, et tu vas avoir des enfants, et bah, attendez, déjà, ça peut être un choix. En l'occurrence, en ce moment, moi, c'est un choix. Enfin, c'est un choix. Oui et non, c'est-à-dire que c'est un choix parce que de toute façon, en fait, je n'ai pas le temps, j'aurai pas le temps. Donc voilà, après, si jamais il arrive, bim, je trouverai toujours le temps parce qu'on trouve toujours le temps. Mais c'est pas du tout une tare, quoi.
Enfin, non.
Je vois pas du tout ça comme une tare. Au contraire, et en l'occurrence, pour moi, ça a été une richesse puisque je n'aurais jamais pu faire tout ce que j'ai fait en étant avec quelqu'un. C'est une évidence. Enfin, j'y passe mes nuits, mes matins, mes après-midi, mes week-ends, mes vacances. J'aurais pas pu mettre quelqu'un là-dedans, ou alors ça serait très mal terminé, quoi. C'est pas possible. Il faut laisser de l'espace par rapport à ça. Et le célibat, en fait, c'est de plus en plus de nanas aussi veulent le rester, quoi. Parce que
c'est ça qui m'interpelle.
Parce que tu trouves que c'est bizarre ?
Alors, j'ai pas de jugement de valeur dessus. Tu vois, j'observe. C'est-à-dire, j'essaye de comprendre si c'est une période, si est-ce qu'on va vers ça, tu vois, est-ce qu'on va structurellement vers ça, et est-ce que le monde va se retourner, enfin, va être comme ça. Et moi, c'est un truc sociologiquement qui me perturbe, mais qui m'interpelle. C'est-à-dire, je me dis, est-ce que on a tous vocation finalement à se dire bon bah finalement la priorité c'est d'être seul et le couple c'est quelque chose qui est finalement rare, tu vois, enfin qui devient en fait en gros c'est le couple était la norme, la famille était la norme, enfin la famille comment on appelle ça, la famille telle qu'on la connaît si tu veux, voilà. Et en fait, je me dis, est-ce que il y a un retournement de paradigme où on se dit bah non, la norme ça sera le célibat. Et il n'y aura que très peu de couples, finalement.
Bah, je crois que ce vers quoi on tend, c'est la réalisation de soi-même.
C'est ça.
Et donc, qui dit réalisation de soi-même dit, et dans un sens positif du terme, égoïsme, dans le sens, je pense à moi, je me recentre, qu'est-ce que j'aime, qui je suis, où je vais, et ça, c'est compliqué de le faire à deux.
C'est pas très compatible avec le couple, ouais. Bah, ouais. Famille, d'ailleurs.
Ouais. Exactement. Et comme il y a vraiment, on est vraiment là-dessus, je pense que les gens veulent leur indépendance, leur faire leur truc, montent de plus en plus de boîtes, de plus en plus d'entrepreneurs, d'auto-entrepreneurs, et donc c'est compliqué. À moins de trouver quelqu'un qui partage un peu le même truc, une fois que tu sais où tu vas, eh ben tu pars avec quelqu'un. Après, est-ce que l'homme avec un grand H est fait pour vivre à deux? On l'a vu avec le confinement, il y a eu des milliards de divorces. Et de rupture à la suite. Alors après, on n'est pas fait pour vivre à deux dans un 25 mètres carrés pendant.
C'est pas pareil que le quotidien qu'on a quand on est deux, mais qu'on peut voir d'autres gens.
Mais quand même, c'est quand même révélateur de quelque chose. Après, c'est sûr que quand t'es seul, tu partages pas moins, mais tu partages avec des amis, tu partages avec d'autres personnes. Et en fait, tu peux te réaliser autrement qu'avec l'amour d'un autre, quoi.
Bien sûr. Toi, ton truc, c'est la fiction, donc on l'a bien compris.
L'autofiction.
Oui, l'autofiction, mais bon, ça confine à la fiction pour certaines personnes, tu vois, quand on a envie de catégoriser le podcast entre interview, fiction, etc. Tu dis que t'as pas de culture, moi, je suis pas du tout... Enfin, je te connais pas. Je connais pas beaucoup, mais on va partir du postulat que je suis pas d'accord. Mais par contre, parce que je pense qu'il faut beaucoup d'intelligence et finalement, c'est peut-être pas la culture au sens littéraire qu'on entend, mais voilà, pour inventer des histoires, il faut beaucoup de culture et beaucoup de sens de l'observation. Je suis persuadée qu'en 2 ans, parce que ça va faire 2 ans maintenant que t'es dans cette aventure,
ouais, ça fait 2 ans, là, ça y est, ouais.
Quels sont les thèmes, tu vois, qui te tiennent à cœur? Parce que je suis sûre qu'il y en a, en fait. Sans pour autant parler d'engagement, je te dis pas que je te demande pas d'être un personnage engagé avec un combat et tout, c'est pas du tout la question, tu vois, c'est juste, est-ce qu'il y a des thématiques aujourd'hui qui te tiennent à cœur?
En fait, oui, sûrement, mais jamais je me dis, tiens, je vais parler de ça. En revanche, quand tu écoutes tous mes trucs, ce qui en ressort, c'est beaucoup le affranchissez-vous, du regard des autres, faites ce dont vous avez envie. Donc, être célibataire, en fait, c'est pas grave, on s'en fout, c'est même plutôt chouette dans un sens. Arrêtons de juger ce que fait le voisin. C'est quand même hallucinant, cette différence entre chacun, cette richesse. C'est beaucoup, moi, je suis très sur les situations. Je ris beaucoup des situations. J'arrive à c'est un peu mon truc. C'est ce que je raconte, c'est toujours des épis histoires et j'en fais tout un truc parce que j'aime bien faire des choses, des choses ordinaires, un truc extraordinaire, quoi. Mais voilà, c'est plus là-dedans, quoi. C'est ça, en fait. C'est ce qui m'anime. C'est-à-dire que on n'a qu'une vie, on s'en fout de tout ça. On va mourir dans quelques années. Donc, on s'en fout, quoi. Allons-y, éclatons-nous. Oui, il y a des drames. Et oui, c'est horrible. Et oui.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Oui, mais ça passe. Et c'est triste. Et ça passe avec le temps. Et ça, il faut rebondir parce que au final, nous, on reste, quoi. Les autres, ils partent, nous, on reste. Donc, c'est en ça qu'il y a une forme d'égoïsme là-dedans, mais c'est un égoïsme qui permet de te renouveler, de renaître à chaque fois que tu tombes, quoi.
J'ai oublié de te poser la question, excuse-moi, ça me vient comme ça à l'esprit. T'as une formation quand même à la base. T'as fait du droit, n'est-ce pas?
J'ai fait 3 ans de droit à une école de commerce, ouais.
C'est quoi tes projets futurs? Alors, on a compris, il y a le livre. Le développement de ta structure, je suppose, quand même. Ouais. En faire en sorte que ça se pérennise.
Il y a sûrement.
Un autre truc dont tu veux parler?
Il y a sûrement une adaptation de l'arnaque en télé. Adaptation dans laquelle, normalement, puisque ce sera mon personnage, je jouerai. Donc, un peu comédienne.
Génial.
Ouais, c'est cool. Mais bon, c'est les prémices, hein, donc on s'emballe pas. Mm-hmm. Et puis, j'en sais rien.
D'accord.
Mais en fait, c'est ça qui est génial, c'est que je ne sais pas, mais en fait, j'ai pas peur parce que, alors évidemment que j'ai peur, mais je me dis que avec ce que j'ai fait déjà là.
Ouais.
Je ne savais pas où j'allais. Je pensais que j'allais faire des podcasts de marque. Au final, j'ai fait mes podcasts. Non, au final, j'ai fait mes podcasts de marque. Au final, je sors des bouquins. Peut-être qu'il y aura de la télé. Je fais de la formation. Je fais des conférences. En fait, jamais je me serais dit que j'aurais fait tout ça en montant la toile sur écoute. Je voulais juste un projet pour me sortir de ma dépression, quoi.
Et c'est important de laisser un point d'interrogation aussi, quand même, un minimum, quoi. Laisser oui. La vie nous surprendre un peu, quand même.
Exactement. Et c'est comme ça que tu laisses, en fait, des portes ouvertes.
Bien sûr.
Tu restes alerte à l'opportunité.
T'as des sources d'inspiration en ce moment, des trucs, comment tu te nourris justement, puisque pour être créatif, il faut quand même se nourrir de plein de trucs, je suppose, non? Alors, tu m'as dit les gens tout à l'heure, les rencontres, etc., mais je sais pas, j'ai vu une vidéo de toi, enfin, t'étais dans un truc où il y a Jean-Luc Reichmann, quoi, qui te dit, on a l'impression que vous en avez sous le, tu vois, t'en as sous le capot, quoi, enfin, t'as encore de la réserve, donc du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qui l'inspire? Est-ce qu'elle a des... Tu vois, je sais pas, est-ce que c'est spirituel, est-ce que c'est pas spirituel, est-ce que c'est culturel, est-ce que tu regardes des trucs autour de toi, est-ce que tu te sens un peu comme un œil qui observe le monde et c'est comme ça que tu te nourris, est-ce que t'as un truc là-dessus?
Ouais, je suis un peu cet œil qui observe le monde et je me nourris de ça. Pendant 35 ans, j'ai fait des trucs qui ne me plaisaient pas et donc j'en ai tiré beaucoup de frustrations qui aujourd'hui se transforment en création.
Ouais.
Et puis, je regarde aussi depuis toute petite énormément de films. Ouais. C'est-à-dire pour ça que je suis presque plus à l'aise dans l'imagination que dans la réalité, et dans la fiction et dans la création. C'est de tout ça. Après, j'ai pas, tu vois, je peux pas te dire j'adore telle personne, elle m'inspire. Enfin, si, évidemment, mais j'ai pas un truc là où je peux te dire ça m'inspire. Non, c'est au quotidien, quoi. Et puis, je vais puiser dans ma tête. Ma tête, elle arrête pas de me parler, quoi. Donc, je verrai plus.
Je vois. Pénélope, je pose toujours 3 questions récurrentes à mes invités.
Ouais.
Il y a une question, alors t'as un peu l'impression d'être... c'est une question très vague. C'est ta vision de la France.
Oula.
Ouais. Vous avez 4 heures.
Vous transformez Emmanuel Macron, allez-y.
Non, mais c'est-à-dire, justement, moi je laisse le... Tu vois, c'est ta vision de la France. Après, t'es pas, tu dis ce que t'as envie de dire, bien entendu, au sens où t'es pas obligé de rentrer dans des trucs politiques, etc. C'est pas du tout l'objet. Mais c'est intéressant parce que moi, vu que je pose la question à tous mes invités depuis un certain temps maintenant, il y a rarement des hésitations. Ils partent tout de suite sur un truc, tu vois. Donc, sois la plus spontanée possible quand je te pose cette question sans... tu vois, c'est pas politique, hein, pour le coup. C'est vraiment pas... Il n'y a pas d'appel aux politiques dans cette question.
J'ai le sentiment qu'on est en retard. J'ai le sentiment que les Français, la France, sont en retard sur beaucoup de choses. Voilà, j'ai un exemple comme ça qui me vient. Par exemple, l'Apple Pay. Tu vois, le fait de payer avec son téléphone. Ah ouais. Bah, aujourd'hui, moi, j'ai un copain qui le fait, mais c'est tout. Moi-même, je le fais pas, hein. Alors qu'en Chine, ils sont bien plus.
Ils ont WeChat, ouais.
Voilà, ils ont WeChat, ils payent tout avec ça. Enfin, bon, voilà. On est un peu des mauviettes. clairement, hein, quand.
Le courage, tu veux dire?
Ouais, enfin, tu vois, quand Macron dit, OK, on vous reconfine, vous avez pas le droit de sortir. Ah bon, vraiment pas? Ah si, si vraiment vous pouvez, vous devez, alors allez-y. Non, enfin, en fait, soit on fait les choses et on le fait, et l'enfer. Soit, voilà, on assume ce qu'on dit, quoi. Mais là, enfin, ce qu'on vit là, c'est un enfer. C'est-à-dire nous repousser tous les 15 jours. Et on en a jusqu'au 15 janvier, 15 février, j'en sais rien. En fait, une bonne fois pour toutes, loquez-nous. Sérieusement.
Non, mais dites-le nous surtout. Dites-le et arrêtez nous. De nous dire dans 3 jours, je vais vous dire à quelle sauce vous allez être mangé.
C'est insupportable, c'est jouer avec nous. Alors je sais, j'imagine que c'est. Je pense qu'à leur place, c'est pas rigolo, ils en savent rien en fait de ce qui arrive, mais en fait, arrêtez de nous caresser dans le sens du poil. Dites-nous, ça va être l'enfer pendant 2 mois, on ne sort pas, personne, zéro, même pas les enfants dehors, même pas les chiens, même pas, j'en sais rien. Enfin, juste pas un truc horrible, tu vois, mais qui fait. Et là, on est sûr. Qu'à la fin des 2 mois, vous pourrez sortir et c'est la fiesta. Mais là, c'est ingérable. Moi, je n'en peux plus. Donc, voilà, ça que j'aime pas, c'est en fait, on a un manque de franchise. Et d'ailleurs, c'est pas que politique, hein. C'est-à-dire que dès que t'es franche, dès que tu dis, par exemple, dès que tu dis, alors je digresse, dès que tu dis j'ai réussi, tu te la pètes. Dès que tu dis ouais, je suis contente de moi, bah ça va.
Ça va
les chevilles, tu t'aimes bien. Bah non, je suis contente de moi en fait. C'est cool de le dire et je pense que c'est important de se le dire parce que trop peu de gens se le disent et d'ailleurs trop peu de femmes se le disent. C'est pour ça que y a beaucoup de femmes qui osent pas aller demander une augmentation, qui osent pas dire moi j'ai envie du poste du mec au-dessus parce que je pense que j'en ai capacité, parce que elles pensent qu'elles les ont pas. Enfin, voilà. Donc moi c'est plus ce côté-là où on se regarde tous un peu, on n'est pas franc du collier, on n'y va pas quoi, on n'y va pas.
Il n'y a pas de décision, ouais.
Oui.
D'accord avec toi, mais j'aime bien le côté franchise au sens on tranche, quoi, tu vois, on décide et on tranche dans le vif, ce qui est finalement assez symptomatique du en même temps, quoi.
Voilà. Exactement.
Qui n'est pas possible finalement au quotidien. Enfin, moi, j'y crois pas.
C'est un peu mou. C'est un peu mou.
Ouais, c'est ça.
Mais après, moi, que je suis en effet un peu une sportive de haut niveau, j'aime bien qu'on me dise, tu te défonces pendant 2 semaines et après tu te reposes. Je préfère ça à, écoute, fais un peu 1 heure tous les jours. Non. Moi, je suis un peu extrême dans ces trucs-là. Mais au moins, comme ça, après, t'as la paix et tu kiffes. Et moi, j'ai été élevée à work hard, play hard. Voilà. C'est la démesure, quoi. Mais c'est pas work a little bit, play a little bit, work a little bit, play a little bit. Enfin, tu vois.
D'accord. Non, mais t'as raison. Je partage totalement ton opinion. 2 dernières questions, un coup de cœur et un coup de gueule. T'es pas obligé d'en avoir.
Si, bien sûr, j'ai un énorme coup de cœur et j'ai l'impression que personne ne m'écoute. Tout le monde s'en fout de ce coup de cœur, alors qu'il est extraordinaire. C'est un coup de cœur pour la série De l'autre côté.
C'est quoi? Je connais pas.
Extraordinaire. C'est, donc ça s'appelle La Vala, je crois, en espagnol. C'est De l'autre côté en français sur Netflix. C'est donc une série espagnole actuelle, hein, série actuelle. On est en 2020, genre. Madrid a eu un virus. Puis ça arrive vraiment à point nommé. Okay. Donc c'est n'importe quoi dans les rues, à tel point que, enfin, c'est la pauvreté extrême, avec d'un côté les pauvres, qui est quand même, je pense, 90%, et 10% de riches, avec les ministres qui, eux, mangent des soufflés à l'orange, quand les autres ont des tickets de ration. Il y a de la milice partout. Dès que quelqu'un tousse, il y a le virus, faut le tuer. Et c'est extraordinaire.
Non, mais vraiment. Ils l'ont prévu quand, cette série? Parce que c'est tombé, enfin, ils l'ont fabriqué là, récemment, avec le corona?
Ben, je pense, alors moi, je l'ai découverte il y a, possiblement pendant le confinement. Donc, ça veut dire qu'ils l'ont tourné bien avant. Ouais. Et puis, alors, il y a d'un peu chiant, pour reconnaître, c'est que c'est un épisode par semaine. Tout n'est pas, sorti.
Eh ben, moi, j'apprécie, tu vois, parce que je trouve que c'est plutôt sympa de laisser les gens un peu en suspens plutôt que de te manger un truc en une demi-journée. Enfin, moi, je sais pas, je suis pas du tout série, donc je suis pas trop.
C'est pas frustrant, moi.
Ouais, mais c'est un peu frustrant.
En même temps, ouais, mais tout mon vendredi, je suis là, ah, c'est ma série, c'est rendez-vous.
Et un coup de gueule, t'en as un?
Ben, j'aimerais passer un coup de gueule. Ouais, c'est quoi? C'est pareil, quoi. Soit on décide que, mais c'est en rapport avec le confinement, soit on décide que tous ensemble, on se tient la main, on serre les coudes et on ne sort pas et on respecte le truc. Mais on le fait pas à moitié, enfin tu vois, malades sans masque qui boivent des bières à 5 personnes devant un takeaway de bar. En fait, en attendant, t'en as qui se font chier et moi j'ai pas envie que mes parents fassent une crise cardiaque et qu'on leur dise vous pouvez pas parce qu'il y a des mecs qui sont corona dans l'hôpital, donc ils vont devoir mourir chez eux, quoi. Enfin non, je veux pas ça. Et en même temps, c'est aussi une énorme privation de liberté qui nous fout, hein. Donc c'est rageant. Enfin, franchement, c'est insupportable. Mais ok, soit on y va tous ensemble. C'est ce côté pareil, c'est ce team spirit, quoi. Soit on y va, soit on n'y va pas.
Je suis entièrement d'accord avec toi.
Ça me rend ouf.
Est-ce que t'as quelque chose à ajouter parce qu'on arrive à la fin de l'interview? Ça passe vite.
Ça passe vite, dis donc.
Est-ce que t'as un truc que tu veux ajouter?
Bah non. Et toi, Estelle, ça va?
Écoute-moi, ça va, mais je partage ton état de nerfs. Enfin, tu vois, je suis complètement d'accord avec toi sur tout ce que tu viens de dire. Et sinon, écoute, j'ai pas à me plaindre. Hein, j'ai pas, je pense que ma situation n'est pas à plaindre. Mais c'est vrai que j'en ai un peu ras-le-bol. Voilà, comme tout le monde.
Et donc, je pense que la chose à faire pour contrer ça, c'est, et la boucle est bouclée, c'est de se focus sur soi-même et de se dire, ok, parce qu'il y a quand même quelque chose dans ce confinement que je trouve de positif, mais c'est un peu bizarre comme vision du truc, mais c'est que j'ai l'impression, moi, en travaillant, parce que du coup, j'ai l'avantage, comme je fais du podcast avec des marques et que je signe, j'ai l'avantage de pouvoir travailler de chez moi, mais du coup, j'ai du taf, donc je signe des trucs. Et j'ai l'impression de gagner du temps sur le temps.
Je comprends. Ouais, je suis un peu pareil que toi aussi. En ce moment, il se passe quand même des choses pour moi, ouais.
Et du coup, tu vois, tu te dis, ok, du coup, par exemple, même les jours fériés, je trouve ça génial parce que du coup, je gagne de temps sur le temps, je travaille pendant que, en fait, le monde dort, quoi. Mais de la même façon, c'est con. Mais par exemple, là, je suis en train de faire un régime. Et ben, je suis 1000 fois plus motivée pendant un confinement. Parce que Bah parce que je fais mon truc toute seule, ok, je fais mes courgettes, mes machins, il y a pas d'histoire de je vais dehors. Enfin, je sais pas, c'est je trouve que c'est vachement plus simple pour se concentrer, se reprendre, prendre soin de soi et dire.
Il y a un truc de concentration que t'as pas quand t'es en période normale, ouais.
Ouais, et de contrôle, parce que si jamais tu lâches, moi, si je lâche là, je suis en dépression avec de la agendas devant des séries toute la journée, quoi.
Ouais, je comprends aussi. Mais t'as raison, il y a un truc de concentration, c'est ça qu'il faut retenir, ouais. Je l'ai ressenti aussi. Je suis d'accord.
Il faut capitaliser dessus, je pense, parce qu'il y a que ça, en fait, on a que ça. Sinon, on s'emmerde toute la journée, c'est l'enfer, on se tire une balle. Donc, il faut se capitaliser sur ça. Qu'est-ce que je peux faire que j'ai pas l'habitude? Et vraiment, on se dit, oui, bah, ok, mais c'est quand même un peu chiant d'aller laver son parquet et ses fenêtres. Ouais. Et en même temps, pourquoi pas?
Bon, bah, écoute, Pénélope, merci mille fois pour cette conversation. C'était
avec
super.
Plaisir. Avec plaisir.
Et puis, je te souhaite une très belle route que tu mérites amplement.
Merci beaucoup, Estelle. C'est adorable. À bientôt. Bye bye.
Avant de vous quitter, sachez que vous pouvez retrouver toutes les notes du podcast sur le site www.reel.fr. Si vous voulez réagir, me contacter ou me proposer des invités, n'hésitez surtout pas à m'écrire sur Instagram. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu et qu'il vous donnera envie de vous abonner pour recevoir les notifications. Alors je vous dis à très vite pour un prochain épisode.